Martin Luther King peut être un prophète pour aujourd'hui.
Bruno Chenu, théologien, ancien rédacteur en chef du quotidien français La Croix.
Parce que son combat a été d'abord centré sur la question du racisme. Et je crois que la question du racisme n'est pas une question des années 50 ou 60, mais c'est une question qui nous accompagne tous les jours avec tous les problèmes de relations entre peuples, entre ethnies. Aujourd'hui, je pense que Martin Luther King a beaucoup à nous apprendre à ce premier niveau. Mais il y a aussi un autre niveau, c'est que progressivement, Martin Luther King a pris conscience que le problème du racisme était lié à d'autres questions, et notamment à la question de la pauvreté. Et donc, sa façon d'élargir la question du racisme, à la question de toutes les structures économiques, me semble un lien intéressant. Et donc, Martin Luther King a finalement posé la question de la structuration de la société et des rapports internationaux avec une vision mondiale. Et donc, Martin Luther King peut être un prophète de la justice pour aujourd'hui.
Of today and tomorrow, I still have a dream.
Yes.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
Yes.
I have a dream that one day,
yes,
this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Yes.
Ce jour-là, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là?
Alors c'est donc la fin du célèbre discours prononcé par Martin Luther King le 28 août 1963 à l'occasion de l'immense marche qui a conduit Noirs et Blancs à Washington pour fêter le centenaire de l'abolition de l'esclavage.
Donc Martin Luther King est en train de prononcer là l'un des discours phares de sa carrière de prédicateur. Quel est le contenu de ce discours?
Peut-être juste avant de préciser cela, je dirais que King est l'un des orateurs et pas le seul orateur, parce que c'est le seul dont on a retenu le nom, mais il y en a bien d'autres avant lui et même après lui. Et ce dont on se souvient, c'est véritablement de la fin de son discours, justement lorsqu'il va prononcer ces mots « I have a dream »,« Je fais un rêve », un rêve profondément ancré dans le rêve américain, c'est-à-dire qu'il va à la fois reprendre une image très très forte aux États-Unis, celle du rêve américain, du pays où tout est possible, et la lier, l'ancrer d'une certaine façon dans une vision, faut-il dire théologique, ou en tout cas du royaume presque.
Et quel est ce rêve de Martin Luther King au niveau du contenu?
C'est le rêve d'un pays où la ségrégation n'aura plus place, où les êtres seront respectés pour ce qu'ils sont et non pas selon la couleur de leur peau. C'est un rêve où chacun est reconnu comme enfant de Dieu, comme être ayant une valeur inestimable, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, etc.
Ce discours « I have a dream » est l'aboutissement d'une démarche. Est-ce que vous pourriez nous présenter, Serge Mollat, cette démarche?
Il faut pour cela remonter quelques années en arrière, se souvenir que le mouvement des droits civiques, qui voit certainement son apogée autour de cette marche, et peut-être encore jusqu'à 1965, débute d'une certaine manière avec le refus d'une femme à Montgomery de se lever dans un bus où, comme noire, elle doit céder sa place à un blanc. C'est le 1er décembre 1955. Cette femme s'appelle Rosa Parks, et suite à son refus, quelques jours plus tard, un boycott s'organise, une organisation prend place, et Martin Luther King, jeune pasteur dans cette ville, en devient le porte-parole. Ce boycott est limité à la ville de Montgomery en Alabama, mais il durera 381 jours et fera basculer les réglementations liées au service public des bus dans cette ville et par conséquent dans d'autres villes.
Oui, parce qu'il y a un élément qui est important de préciser là, c'est que à cette époque-là, les États-Unis vivent une ségrégation très intense entre noirs et blancs.
Oui, surtout dans le sud des États-Unis où effectivement la vie est régie selon la couleur de votre peau. Et au fond, presque tout ce qui permet la vie, dans laquelle la vie se manifeste, a sa catégorie blanche ou sa catégorie noire. Ainsi, les écoles, il y a des écoles pour blancs, des écoles pour noirs, les églises sont pour blancs ou pour noirs, les magasins, les lieux publics, et parfois même si les noirs fréquentent les mêmes restaurants que les blancs, ils ne sont pas dans la même partie de la salle, ils ne sont pas servis de la même manière, les facilités publiques ne sont pas les mêmes, etc.
Je suis allé d'Atlanta à Dublin, en Géorgie, en compagnie d'un professeur que j'aimais beaucoup, Mrs. Bradley. Elle est morte depuis. Je devais participer à un concours d'éloquence patronné par les Negro Elks, le club des élans noirs. Ce fut un jour mémorable, car je réussis à remporter le concours. Par une curieuse ironie du sort, mon sujet, je m'en souviens, était le noir et la constitution. Quoi qu'il en soit, nous avions pris le bus ce soir-là pour rentrer à Atlanta. Dans une petite ville sur la route, quelques passagers blancs sont montés à bord et le chauffeur blanc nous a ordonné de nous lever pour laisser nos sièges aux blancs. Comme nous n'obtempérions pas assez vite à son gré, il s'est mis à nous insulter et à nous appeler « enfants de pute noire ». J'avais l'intention de rester à ma place, mais Mrs. Bradley m'a finalement demandé de me lever en disant que nous devions obéir à la loi. Nous sommes restés debout dans le couloir tout au long des 130 kilomètres qui restaient à couvrir jusqu'à Atlanta. Cette nuit ne sortira jamais de ma mémoire. Je n'ai jamais été plus furibond pendant toute ma vie.
One day after finishing school, I was called to a little church.
Mais un jour, je venais de terminer mes études, je fus appelé à prêcher dans une petite église du Sud, à Montgomery, dans l'Alabama. Tout marchait bien dans cette église. Et ce fut une expérience merveilleuse. Une année après, une dame nommée Rosa Parks décida que ça suffisait comme cela et elle refusa de céder sa place dans un bus. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, parce que cela remonte à plusieurs années, mais cet événement marqua le début d'un mouvement où l'on vit 50 000 Noirs, hommes et femmes, refusés catégoriquement de monter dans les bus de la ville. Pendant 381 jours, nous sommes allés à pied, côte à côte. Voilà ce que nous avons à apprendre ici au Nord. Les Noirs doivent apprendre à agir ensemble. Nous sommes restés solidaires. Nous avons lancé notre appel et pas un seul Noir ne prit le bus de ma vie. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue. Alors, les gens de Montgomery me demandèrent d'être leur porte-parole. Et quand le président de la nouvelle association qui venait de se créer me demanda de diriger le boycott, je ne pus refuser. Et nous avons commencé le combat ensemble. Les premiers jours, tout se passa bien. Mais 10 ou 15 jours après, quand les Blancs de Montgomery comprirent que nous étions déterminés à agir, ils commencèrent à nous faire des coups tordus.
Threatening my life, the life of my family, the life of my children. I took it for a while in a strong manner.
Ce boycott, au fond, ça c'est concrètement sur le terrain. Les Noirs, l'immense majorité, le 100% des Noirs de Montgomery n'emploient plus les bus et vont à pied. Peu à peu s'organiseront un tout petit peu avec celles et ceux qui ont des voitures, mais c'est l'infime minorité à cette époque. Et parallèlement à cela, un combat juridique s'organise. Et c'est ce qui conduira, 381 jours plus tard, à une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant anticonstitutionnelles les lois appliquant la ségrégation dans les bus à Montgomery.
Alors est-ce que cette décision va faire basculer les États-Unis tout de suite dans une sorte de société non ségrégée?
Non, bien sûr que non, parce que là on a touché à une chose qui est les bus, la fréquentation des bus dans une ville bien particulière. Mais à partir du moment où cela a réussi à Montgomery, dans d'autres villes, immédiatement des petits boycotts démarrent, qui s'arrêtent tout de suite parce que tout de suite les autres villes lâchent sur ce point, sachant que si la loi est anticonstitutionnelle à Montgomery, elle le sera déclarée anticonstitutionnelle ailleurs aussi. Maintenant, suite à cette grande réussite, il y a là, les églises noires reprennent le devant de la scène. Martin Luther King en est l'un des porte-paroles éloquents, et il va passer d'église en église, de paroisse en paroisse, avec les siens pour raconter cela, et du coup donner un grand élan d'espérance, et que d'autres combats pourraient être menés, et vont être menés dans les années qui suivent.
Donc là, on est en 1957. Pendant la fin des années 50, quels vont être les grands combats de Martin Luther King?
Je citerai pas forcément de grands événements dans la fin des années 50, si ce n'est que d'abord il y a un grand effort d'information. King va également voyager à l'étranger. Mais il y a une impulsion qui est donnée, il y a une espérance qui est donnée. C'est peu à peu que d'autres événements vont se mettre en place, et notamment, on pourrait citer dès février 1960, des jeunes, quatre jeunes, qui occupent un restaurant où on ne sert que, normalement que des Blancs. On ne refuse de les servir, ils seront bien sûr emprisonnés très vite, mais remplacés dès le lendemain par quatre autres jeunes, et ainsi de suite, et très vite, les prisons locales seront remplies.
Et là, ces jeunes sollicitent Martin Luther King pour qu'il leur vienne en aide.
Martin Luther King, en tout cas, de suite vient manifester son soutien, d'autant plus qu'il est impressionné par le fait que ces événements, comme ceux de Montgomery, se passent sans violence. Et d'ailleurs, on verra beaucoup de ces jeunes lire Gandhi, lire tel ou tel extrait de discours de King. Donc, il y a toute une réflexion intense autour de la violence, de la non-violence et de la façon d'appliquer, de mettre en place des tactiques, des stratégies non-violentes.
Donc on discerne là l'une des sources d'inspiration de Martin Luther King. Il s'agit de la pensée non-violente de Gandhi.
Oui, certainement. C'est-à-dire que Martin Luther King avait rencontré la pensée de Gandhi pendant ses études. Il avait assisté à une ou deux conférences, et notamment à celle d'un noir américain qui lui-même avait rencontré Gandhi et préconisait les stratégies non violentes aux États-Unis. Un ami de la famille de King connaissait bien Gandhi, il s'agit de Howard Thurman. Il avait été lui-même rencontré Gandhi en Inde et avait espéré une fois pouvoir inviter Gandhi aux États-Unis. Donc il y avait déjà, je dirais en amont de Martin Luther King, un intérêt parmi certains leaders ou intellectuels noirs pour la pensée de Gandhi, avec même des visées sur l'utilisation des stratégies de Gandhi aux États-Unis.
Donc là on est en 1960, et en 1960, Martin Luther King a déjà fait un voyage en Inde sur invitation de Nehru.
C'est-à-dire qu'effectivement, en 1958, King, après être devenu quelqu'un de très connu, qui est au fond le leader du mouvement naissant, King est invité en Inde et rencontre Nehru, discute longuement avec lui, justement des questions de non-violence, de stratégie non-violente, de spiritualité liée à la non-violence, etc.
And before I'll be a slave. No segregation. No segregation. No segregation. No segregation over me, over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free and be free. No more dogs. No more dogs. No more dogs. No.
Les principales forces à l'œuvre, quand on utilise l'arme de la non-violence, consistent en son étrange pouvoir de transformation, de mutation, sur les individus qui se soumettent à cette discipline et se trouvent investis d'une mission dont l'envergure dépasse la leur propre. Ils deviennent, pour la première fois, quelqu'un. Et ils ont pour la première fois le courage d'être libre. Quand le noir trouve le courage d'être libre, il fait face aux chiens, aux fusils, aux matraques et aux lances d'incendie sans en avoir aucune peur. Et les blancs qui disposent des chiens, des fusils, des matraques et des lances d'incendie voient que le noir, qui est traditionnellement appelé « mon garçon », est devenu un homme. Nous devons faire comprendre à nos frères blancs que la non-violence est une arme faite d'amour. C'est une épée qui guérit. Notre programme d'action directe non-violente a pour objectif non pas la création de tensions, mais la mise à nu des tensions déjà existantes. Nous nous employons à précipiter l'apparition d'une situation de crise qui doit déboucher sur une négociation. Je n'ai pas peur des mots crise ou tension. Je suis profondément opposé à la violence. Mais des crises ou des tensions constructives sont nécessaires à toute croissance. Les tensions sont inhérentes à toute vie, à toute croissance. L'absence des tensions n'existe que dans la mort. Pour guérir les injustices, vous devez les exposer à la lumière de la conscience humaine, les traîner à la barre de l'opinion publique, quelque tension que cet étalage puisse entraîner. Les injustices infligées aux Noirs doivent être exposées au grand jour, où l'on ne pourra plus refuser de les voir.
Donc on l'a dit tout à l'heure, on est actuellement en 1960 dans le cadre de cette manifestation en Caroline du Nord avec ses étudiants qui revendiquent la déségrégation de restaurants. Quelles vont être les actions majeures de King avant 1963 ?
King, dans ce début des années 60, soutient fortement ses actions estudiantines. Maintenant, les étudiants vont former leur propre organisation. Donc King ne sera pas le président de celle-ci, là, il dirige une autre. Mais dès 61, 62, d'autres actions commencent, une action sur les transports publics inter-État, menée notamment là encore par des jeunes, cette fois blancs et noirs, et King soutiendra également très fortement ce type de manifestation. Manifestation également dans une ville comme Albany, où là les résultats seront mitigés parce que l'organisation de King, qui est très présente a peut-être insuffisamment pensé les objectifs, ils sont trop larges, et sous-estimé la qualité de l'adversaire, c'est-à-dire que le responsable local de la police est un homme qui a très bien compris la stratégie d'action non violente de King et qui a formé ses policiers à agir d'eux-mêmes, c'est-à-dire à ne jamais sombrer dans la violence, mais à faire régner l'ordre au plus près. Et c'est bien garder d'emprisonner les Noirs dans les prisons locales pour toujours garder de la place localement. Et au fond, si Albany se terminera sur une demi-réussite ou demi-échec, selon le regard que l'on porte, ce sera une étape extrêmement importante pour une ville cible suivante, Birmingham, où King et son organisation vont revendiquer la déségrégation notamment des magasins. Et cette ville est choisie parce que justement celui qui la dirige, le maire qui est en même temps le chef de la police locale, est un raciste reconnu, détestant les Noirs, et certainement qu'il réagira à la moindre manifestation. Donc si, suite à une stratégie bien pensée, on arrive à faire monter la pression, sans violence du côté des Noirs, eh bien, la réaction des responsables locaux, je veux dire blancs locaux, permettra de révéler la ségrégation, le racisme et l'inévitable changement.
Cette manifestation à Birmingham, elle intervient en quelle année ?
Alors, on est en 1963, et au fond, la marche de Washington dont nous parlions précédemment avec le fameux discours I Have a Dream se situe à peu près au milieu de toutes ces manifestations qui durent plusieurs mois hein, à Birmingham. Maintenant, peut-être que les plus importantes ont lieu autour de Pâques, puisque là, il y a un fait assez intéressant, c'est que King a promis, alors qu'il y a déjà des arrestations importantes de Noirs, King a promis de lui aussi se faire arrêter par solidarité avec toutes celles et ceux qui sont arrêtés. La difficulté, c'est qu'à ce moment-là, on est juste avant Pâques, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'organisation, presque plus. Or, il est extrêmement important qu'il y ait de l'argent pour pouvoir payer les cautions afin que ceux qui sont arrêtés puissent être lâchés en attendant un jugement. Sinon, ils risqueraient de perdre leur travail, etc. Or, celui qui génère le plus d'argent, c'est King, par les conférences et les meetings auxquels il participe et qui permettent de ramener de l'argent dans le mouvement. Donc, si il se fait arrêter, on ne pourra pas faire sortir les gens de prison, et s'il ne se fait pas arrêter, il ne manifeste pas sa solidarité. Donc, il y a là un dilemme auquel il est confronté avec son équipe, et King décide, malgré tout, d'aller en prison, alors que ses proches lui déconseillent. Il y va et il se passera la chose étonnante, c'est que pour une des premières fois, il est emprisonné seul, ce qu'il n'aime pas, alors qu'habituellement il l'est toujours avec Raph Abernathy et ses collègues. Et il n'a avec lui que le journal local, sa Bible. Et il se met à lire le journal local dans lequel il découvre une lettre ouverte de 4 ecclésiastiques blancs à son endroit, déclarant qu'il trouve bien l'action de King, mais que M. Martin Luther King, malgré tout, comme pasteur, se montre extrémiste. Et King commence, en prison, à répondre, lui aussi, par sous forme de lettre.
Et là, c'est la fameuse lettre de prison de Birmingham.
Exactement, c'est cette fameuse lettre qui va devenir immensément célèbre, toujours imprimée aujourd'hui. Elle est tout à fait étonnante parce que King va répondre au fond à la question de l'extrémisme de la façon suivante, en disant la question n'est pas d'être extrémiste ou de ne pas l'être, la question est plutôt de savoir quel genre d'extrémiste l'on sera. Sera-t-on donc un extrémiste de la violence ou de l'amour? Et cette lettre qu'il va donner à ceux qui viennent le voir en prison va être multicopiée, de très très nombreuses fois, distribuée à la sortie des églises, peu à peu publiée, et elle va rapporter financièrement ce qu'aucun meeting et collecte n'a jamais rapporté.
Thank you.
28 août 63, on fête le centenaire de l'abolition de l'esclavage. 1863-1963. Et donc là, à Washington, se rassemblent toutes les organisations noires, les organisations travaillant pour les droits civiques, pour venir fêter cet événement. Alors, est-ce une fête ou est-ce un moment de militance? Il y a débat là-dessus. C'était probablement une fête, mais à cause de ce discours, ça va devenir davantage.
Finalement, ce fameux 28 août 1963, une fabuleuse espérance est en train de se dire.
Oui, et c'est probablement pour cela que la terminologie même du rêve porte tellement. Il y a là 250 000 à 300 000 personnes, noires, majorité noire, mais également quelques milliers de blancs. Et au fond, l'espérance est presque palpable dans l'air, dans les chants, dans le discours, dans la joie. Et on croit qu'on y est presque. Il y a encore juste quelques petites retouches et effectivement, la ségrégation sera balayée. Bon, ça c'est le 28 août 1963. C'est vraiment le rêve. Trois semaines plus tard, une bombe explose à Birmingham. Trois fillettes dans une église meurent. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas.
Donc finalement là, le rêve s'étiole.
Le rêve non seulement s'étiole, mais ce sont plutôt les paroles à ce moment-là de Malcolm X qui deviennent vraies, c'est-à-dire que le rêve américain est un cauchemar.
At the Battle of Jericho, and war came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua. The Battle of Jericho, hallelujah! Joshua at the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the Battle of Jericho, and the war came tumbling down. Hallelujah! Joshua at the Battle of Jericho, Jericho. Jericho, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, with sword drawn in his hand, go blow them horns like Joshua, the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho. Hallelujah, Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho.